9h-10h. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
À votre santé, et nous allons parler de bonheur ce matin avec le docteur Lionel Coudron, mon invité. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'Institut de Yoga Thérapie IDIT, on dit ?
Oui, Institut de Yoga Thérapie IDIT, absolument.
Voilà, c'est pour utiliser le yoga à des fins thérapeutiques, vous nous expliquerez ça. Vous êtes médecin du sport, diplômé en nutrition, acupuncteur, auteur de nombreux livres sur la santé, et vous venez nous présenter votre nouveau livre, Le vrai nom du bonheur et la sérénité, aux éditions Kero. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aujourd'hui que beaucoup de gens qui ont tout pour être heureux ne le sont pas ?
Parce que justement, il y a vraiment un fossé entre l'avoir et l'être. Et le bonheur, ce n'est pas du tout une question de possession ni de la dimension matérielle, mais elle procède d'un état intérieur. Et on se rend compte que c'est en travaillant sur soi, sur son état précisément justement, qu'on peut acquérir progressivement cet état de calme et d'apaisement qui justement est vraiment la marche essentielle pour aller vers le bonheur. Le bonheur, c'est pas qu'une question de joie, c'est pas qu'une question de satisfaction, c'est aussi un état d'apaisement qui permet justement tous ces ingrédients de prendre racine.
Pour expliquer à ceux qui nous écoutent ce qu'est votre livre, c'est une boîte à outils, avec des outils dedans que vous utilisez. Et on va faire de nombreuses pauses dans cette émission, puisque en fait vous nous invitez dans votre méthode à faire régulièrement des pauses dans la journée. Alors des pauses très courtes d'ailleurs, hein.
Absolument, parce que je pense que ce qui est justement peut-être antinomique à cette idée de bonheur, c'est le fait d'avoir la tête dans le guidon, de foncer, d'être toujours en train de pédaler et de ne jamais prendre le temps de faire une pause, de regarder le paysage, de respirer tout simplement, de profiter de l'instant. Et ça, c'est peut-être ce qu'il faut essayer de développer. Et ça s'apprend, c'est pas inné.
Premier exercice, nous allons pendiculer.
Ah oui, alors ça j'adore, parce que effectivement c'est tellement simple que tout le monde a le sentiment que c'est ridicule, que ça ne sert à rien, que ça n'apporte pas, que ça n'a pas d'intérêt. Et on se rend compte qu'en pratiquant cette pendiculation, et on va expliquer ce que c'est parce que j'imagine que tout le monde se pose la question.
C'est pas facile à ressortir à midi, hein. Pendiculation.
Ouais,
et pourtant, on pendicule plusieurs fois par jour sans le savoir.
Exactement. En tout cas, les animaux. Nous, on a perdu cette capacité et cette compétence. En fait, c'est très simple. Il suffit que tous nos auditeurs fassent comme nous. On va joindre le geste à la parole.
Ah ouais, il faut nous montrer à la radio.
Voilà. Hein. Il suffit de s'étirer, comme on le fait quand on se réveille. Donc, je suis en train de lever les bras, je suis en train de m'étirer.
Oui.
Et merci de me joindre également dans le studio. Donc, on inspire, parce que la respiration est un élément déterminant. On retient le souffle et on s'étire bien, mais vraiment agréablement. On va chercher la sensation comme un animal le ferait et on expire en bâillant. On roule un peu les épaules et quand on est attentif, on ne peut pas ne pas sentir la sensation agréable qui en découle. Il y a vraiment une sensation qui va permettre de décrisper toutes les tensions et d'un seul coup, il y a un sentiment que ça recircule dans le corps.
Attendez, vous dites que c'est carrément un exercice qui change la vie.
Oui.
Vous exagérez un peu, non ?
Franchement, non, je le crois pas. En tout cas, en écoutant ceux qui le pratiquent, en écoutant aussi bien mes patients que tous les professeurs qui le mettent en application, non, ça change véritablement la vie. Ce qui est tout simplement... je dirais utiliser nos propres ressources, parce que encore une fois je le répète, les animaux le font spontanément, naturellement.
On le voit, hein, d'ailleurs,
plusieurs fois par jour, et ça leur permet justement de redémarrer. Ça permet de d'éliminer les tensions, soit liées à la mauvaise position, soit liées à des émotions qui nous perturbent, qui nous tendent, et d'un seul coup tout se remet à circuler librement.
Vous expliquez dans votre livre que la posture, c'est fondamental, qu'elle déclenche des réactions physiologiques en chaîne et qu'on peut finalement changer ce que ça déclenche rien qu'en se tenant différemment. Alors, expliquez-nous un petit peu.
Oui. On va procéder en fait par l'inverse. Quand je suis apeuré, par exemple, je vais me mettre en boule. Et si je me replie sur moi, c'est parce que ça va me donner une sensation de protection. Eh bien, le fait de se replier donne un sentiment de protection. À l'inverse, lorsque le gorille se redresse et qu'il bombe le torse, c'est pas parce qu'il a confiance en lui, mais c'est cette position qui va lui redonner confiance en lui. Et le fait de se redresser, le fait d'aller chercher cette occupation de l'espace, vous voyez, comme les animaux qui vont justement grossir leurs poils pour occuper l'espace pour, je dirais presque impressionner, déclenche en soi des réactions physiologiques, des réactions hormonales qui modifient notre état. Et d'un seul coup, on passe d'un état où on était les épaules qui tombaient, dans un sentiment de protection, à un état au contraire où on s'affirme, où on se sent bien, où on est là, on occupe l'espace. Et quand on se connecte à cette sensation, et ça peut demander un tout petit peu d'entraînement quand on a perdu cette faculté, eh bien ça effectivement modifie notre état.
Donc on peut modifier son état d'esprit en modifiant sa position.
Absolument.
Donc, il suffit de le savoir, finalement.
Il suffit de le savoir et de le mettre en application. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qui nécessite un entraînement. Et progressivement, ça devient une seconde nature. Et je dirais, le naturel revient au galop, mais tant mieux parce que c'est justement quelque chose de tout à fait naturel.
Donc, il faut apprendre la façon dont on se positionne.
Oui, ou je dirais, il faut désapprendre la façon dont on s'est positionné mal exactement.
Ah, oui. Vous expliquez dans votre livre qu'il faut écouter son corps. Alors, ça veut dire quoi, écouter son corps?
Alors, écouter son corps, en fait, on le fait parfois, enfin, je dirais même en permanence, pas parfois, on le fait en permanence sans s'en rendre compte. Quand vous suivez votre instinct, quand vous suivez votre intuition, quand vous dites « ça, ça me plaît » ou « ça, ça me plaît pas », c'est pas le fait d'une réflexion, c'est le fait de messages que votre corps vous envoie, c'est-à-dire des émotions. Ce que vous ressentez, si vous avez un nœud à la gorge, une oppression thoracique ou un souffle court, ça vous envoie des messages qui vous disent c'est pas bon pour toi. Si au contraire vous sentez que ça s'ouvre, et d'ailleurs vous voyez, je joins le geste à la parole, je me redresse, j'ouvre ma cage thoracique, j'écarte mes bras. Si on s'ouvre, eh bien on va sentir quelque chose au contraire de joyeux, d'agréable, ça envoie une information à mon cerveau qui me dit ça c'est bon pour toi. Et quand je tombe amoureux, quand je trouve que eh bien c'est effectivement cet objet-là qui me plaît plutôt qu'un autre, c'est mon corps qui m'a informé et qui m'a donné ces informations. C'est-à-dire que j'ai été à l'écoute de mon ressenti, à l'écoute de mes émotions.
Alors comment est-ce qu'on se concentre sur ces informations que le corps nous envoie et comment on apprend à les décoder?
Alors, mais là encore, ça procède d'un certain entraînement, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce que l'on ressent dans son corps et pour ça, il n'y a rien de compliqué. On peut, même là maintenant, en fermant ou sans fermer les yeux d'ailleurs, être attentif à qu'est-ce qui se passe au niveau de mes mâchoires, au niveau de mes épaules, au niveau de ma respiration. Qu'est-ce que je ressens dans mon ventre? Est-ce que ça se crispe? Est-ce qu'au contraire c'est calme? Est-ce que dans ma cage thoracique je sens quelque chose de chaud et qui s'ouvre? Au contraire je sens une pression? C'est toutes ces informations-là que je vais apprendre à décrypter.
Oui, parce que les gens n'arrivent pas forcément à les décrypter immédiatement.
Non, ça demande aussi un certain apprentissage et que l'on va faire dans beaucoup de méthodes. Hein. On parlait du yoga tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'autres méthodes qui nous apprennent à cela, Les différentes formes de méditation, d'observation et de conscience, comme on le dit aujourd'hui, vont dans ce sens-là. Les balayages corporels, c'est exactement ces techniques-là qui nous apprennent à être en connexion avec ce qui se passe dans notre corps. Et quand je sais ce qui se passe, que je ressens, je connais l'état dans lequel je suis et je peux commencer à travailler dessus et à le modifier.
On a pendiculé tout à l'heure, mais bâiller c'est bon aussi.
Oui, alors dans la pendiculation, en fait, est contenu le bâillement. Le bâillement procède également du même mécanisme naturel et, je dirais, de l'instinct. C'est-à-dire que c'est une mise en tension maximale des muscles du visage qui s'associe à une longue respiration, et du coup, quand je vais respirer de cette façon, je vais mobiliser le diaphragme, et là, on rentre dans un des éléments centrales de la méthode, qui est la respiration, et le diaphragme est le muscle moteur principal de la respiration, donc je vais le suspendre quelques instants, et avec une longue expiration, je vais le détendre. Et ce diaphragme, en se relaxant, détend l'ensemble du corps.
Lionel Coudron, pourquoi est-ce qu'on bâille?
Eh bien, on bâille justement pour cela, pour se recentrer, pour améliorer sa concentration, pour se défatiguer. Donc, souvent, on va dire, tiens, je vois que les gens bâillent, c'est qu'ils manquent d'intérêt. Oui, c'est parce qu'ils étaient en train de perdre leur attention, donc ils vont bâiller pour relancer une stimulation au niveau de leur corps, une détente et une concentration. Ça a ce double effet.
Mais et pourquoi est-ce qu'on peut répondre à cette question de savoir que quand il y en a un qui baille, les autres vont se mettre à bailler aussi?
Alors, ça, c'est un autre mode de fonctionnement extrêmement important chez l'être humain. C'est la capacité d'empathie, de se mettre au même niveau que les autres. Et le fait de bailler tous ensemble, c'est un effet de synchronisation dans le groupe. Et c'est, ça va renforcer le partage du groupe. Ça permet d'améliorer l'homogénéité dans un groupe.
Vous expliquez dans votre livre qu'une fois qu'on s'est bien étiré, hein, qu'on a bien pendiculé, c'est le mot que vous retiendrez aujourd'hui, oui. Hein, qu'on s'est bien étiré, qu'on a bien respiré, qu'on a fait tout ça, il faut d'abord déconnecter son cerveau. Et pour déconnecter son cerveau, il faut pouvoir se déconnecter des appareils qui nous entourent. Comment est-ce qu'on fait des appareils qui nous entourent, donc téléphone portable, tablette, ordinateur, comment est-ce qu'on en fait des alliés, des amis et justement des objets qui nous aident et non pas des objets qui nous rendent esclaves?
Alors, l'un des risques, justement, de notre monde moderne, c'est de s'embarquer, comme on le disait tout à l'heure, la tête baissée dans le guidon et d'être complètement sollicité en permanence vers l'extérieur et ne plus pouvoir faire ses pauses avec nous-mêmes. La surstimulation, c'est pas un mythe aujourd'hui. La surstimulation, et en particulier par ces appareils qui nous connectent en permanence, qui créent des réflexes conditionnés. Dès que ça sonne, je décroche mon téléphone, je suis plus avec les autres, je suis en permanence sur mon portable et pas en train de partager le repas. Je repense encore avant-hier, j'étais au restaurant et je vois une famille.
Je croyais que vous étiez sur la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barth. Alors là, franchement, là, Lionel Courant.
Pas au repas de midi. Au repas de midi, j'étais sur une terrasse en train de regarder la mer, j'avoue, très très franchement. Et effectivement, j'étais aussi sur la tombe de Johnny pour voir notre chanteur national. Et c'est comme à Saint-Barth, c'est un tout petit caillou, il n'y a pas grand chose à faire. Ça fait partie,
ouais, c'était effectivement, l'activité, ouais.
Ça fait partie des obligations quand on y est. Mais en l'occurrence, là, j'étais justement, on était sur une terrasse avec ma femme. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. C'est pas la haute saison. Je dis quand même, parce que je culpabilise un petit peu de dire que j'étais à Saint-Barth, j'y étais pour donner un stage de yoga quand même.
On parlera de la culpabilité tout à l'heure, parce que vous dites que finalement,
tout à fait.
Il faut culpabiliser en conscience.
Absolument. Alors je suis d'accord avec ça, mais on reviendra tout à l'heure
mais
sur ce point.
C'est vrai, vous avez raison, c'est complètement immoral d'être à Saint-Barth en plein
exactement.
Mois d'octobre.
Ah oui, puis alors là, quand je reviens avec ce froid...
Avec la mine que vous avez, vous devriez avoir honte.
J'ai honte.
Donc vous étiez sur une terrasse avec votre femme.
Exactement. Et alors, on profite, évidemment, cette magnifique étendue d'eau, on ne peut pas rêver mieux, c'est la carte postale rêvée. Et il y avait une famille, vraiment dans ce qu'elle peut représenter a priori de mieux, et le mari était sur sa tablette, le gamin était effectivement sur son téléphone portable, et la femme aussi. Et ils étaient tous les trois éclatés. Et au lieu que ce soit un moment où ils auraient pu se retrouver et profiter vraiment en conscience, parce que ce qui rajoute du bonheur à l'instant, c'est d'en prendre conscience. C'est pas de le faire de façon, encore une fois, inconsciente et automatique. Eh bien, malheureusement, je veux dire, c'était l'illustration parfaite d'un monde moderne où on a tout pour être heureux, entre guillemets, et où on n'en profite pas.
Alors, je ne dis pas qu'ils sont pas heureux, par ailleurs. Comment on fait de la technologie notre allié, Lionel Courant?
Eh ben voilà. Donc, il faut savoir, là aussi, il faut apprendre. On a appris à manier un stylo, on a appris à écrire à la machine, enfin, ça n'existe plus maintenant, mais à l'ordinateur. Eh bien, on apprend et on s'éduque, c'est de l'éducation, à utiliser ses téléphones de façon parcimonieuse, à savoir les couper, à ne pas en être des...
D'accord, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, ce sont des réflexes conditionnés. Donc on on regarde son téléphone, vous voyez.
Oui, mais ça s'apprend, ça s'éduque. C'est un procédé qui est tout nouveau. Donc pour le moment, on le subit. Mais il faut remettre de l'ordre dedans, il faut remettre de l'organisation. Et à partir de là, on va en faire un allié, justement. Je ne suis pas du tout contre le monde moderne, je ne suis pas du tout contre tous les bénéfices, bien au contraire. Je profite moi-même de tous les avantages de ce monde, mais il faut les mettre à leur place. Et il faut se poser une question à chaque fois. Vraiment, est-ce que cet outil-là est une aide pour moi ou est-ce que c'est moi qui suis dépendant et esclave de cet outil?
Mais comment on arrive à le savoir?
Ah ben c'est très simple. Si mon stylo, je dois maintenant faire attention parce que j'ai peur de l'abîmer, je dois le mettre dans différentes pochettes et qu'il ne me sert pas, je deviens esclave de mon stylo. Si mon stylo, en revanche, me sert à prendre des notes et que il devient efficace comme effectivement outil pour me permettre moi de faire ce que j'ai envie de faire, du coup je n'en suis pas esclave, c'est lui qui est à mon service, c'est mon outil. Et pareil pour le téléphone, pareil pour la tablette, pareil pour l'ordinateur.
Docteur Lionel Coudron, un autre invité ce matin. Alors, les pauses publicitaires, vous appelez ça des pauses comment ?
Eh ben, on va en profiter pour justement discuter tous les deux.
Nous, on va en profiter. On fait la pub et on revient dans un instant.
À votre santé, reviens dans un instant. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
On va faire le maximum pour être heureux aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre du docteur Lionel Coudron. Le livre s'appelle Le vrai nom du bonheur et la sérénité aux éditions Quéron. Alors c'est un livre plein de bon sens et c'est vrai que vous appelez le bon sens, hein, le bon sens comme avant.
Oui, je revendique effectivement cette notion de bon sens, parce que parfois, on se coupe de la réalité. Si vous voulez, c'est un gros avantage quand on est médecin, c'est qu'on est ramené à la réalité en permanence. Quand on est clinicien et que tous les jours, on a des plaintes, de la souffrance, des douleurs, des bobos, comme le pire, on est ramené à la réalité. Et là, on est obligé de trouver des solutions et pas juste de jouer du violon, quoi.
Alors, vous êtes yoga-thérapeute, hein, vous êtes médecin de formation. Vous êtes venu à la médecine par le yoga.
Oui.
Vous avez commencé le yoga très tôt. Vous aviez 14 ans quand vous avez commencé le yoga. Quand vous regardez aujourd'hui, quelques années plus tard, la vraie dynamique qu'il y a autour du yoga, le vrai regain d'intérêt qu'il y a autour du yoga, quand vous avez commencé, c'est les gens qui allaient à Katmandou qui faisaient du yoga. Hein.
Oui,
c'était les allumés un peu.
Ah, oui, je peux dire ça, oui, absolument. C'était très marginal. C'était dans les suites du mouvement de 68 aussi. Donc il y avait ce mouvement Peace and Love un petit peu qui habitait la notion de yoga, oui.
Et maintenant, grâce à la méditation, alors il y a un vrai regain autour du yoga. Vous faites ce qu'on appelle depuis quelques années des consultations en yoga-thérapie. Qu'est-ce que c'est que la yoga-thérapie ?
Alors, c'est l'application du yoga à des fins thérapeutiques, à des patients, des personnes qui sont en souffrance. Et le yoga, depuis toujours, en fait, s'est posé comme une solution pour répondre à nos problématiques, à nos angoisses, à nos douleurs, et avec des exercices simples. Alors, ça a évolué, hein. Le yoga, ça n'a pas été quelque chose de révélé. Il n'y a pas un message qui a été révélé il y a 2-3 000 ans. C'est vraiment une technique qui s'est construite au fil des siècles. Ça a d'abord démarré par de la méditation, ce que peu de gens savent. Le yoga, il y a 2000 ans, c'était de la méditation pure et toute simplement. On s'installait et on prenait conscience de ce qui se passait. Et au fil du temps, ça s'est enrichi des différentes postures de yoga pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure. C'est-à-dire que la posture a une incidence sur notre être. Donc, ça va nous permettre de modifier cet état intérieur. Et c'est en modifiant cet état intérieur qu'on a un autre regard sur nos pathologies, sur nos maladies, un autre regard sur notre vie, et qu'on peut modifier ces petites choses. Mais qui change tout ?
Ouais, mais il y a 40 ans, quand vous avez commencé le yoga, vous pensiez que c'était bon pour la santé. Vous ne saviez pas pourquoi, mais vous pensiez que c'était bon pour la santé. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, ça commence à être validé.
Ah oui, alors là, effectivement...
C'est ça qui change.
Ah oui,
parce que quand on parle de vous savez, les médecines parallèles, de toutes les thérapies qu'on voit arriver aujourd'hui, elles sont pas forcément validées scientifiquement. Donc on dit oui, mais il n'y a pas de... Voilà. Mais vous, le yoga, on voit que petit à petit, ça avance.
Oui, pour moi, c'est ça qui est enthousiasmant. C'est qu'il y a 40 ans, c'était la foi du charbonnier. Ce qui me faisait croire que le yoga était efficace, c'était parce que je le constatais sur moi. Quand on fait du yoga et qu'on ressent d'un seul coup qu'il y a quelque chose qui se passe, bon, à ce moment-là, on en devient convaincu. Quand on voit son voisin de tapis qui souffrait du dos et qui vous dit, moi, depuis que je fais du yoga, j'ai moins mal au dos, etc., on se dit, il y a quelque chose qui se produit. Mmh. Mais il n'y avait pas d'études validées qui permettaient. Mmh. Aujourd'hui, en 2018, effectivement, depuis 15 ans, les scientifiques, les chercheurs s'excitent un petit peu sur ce domaine-là et on valide cette efficacité du yoga. Alors, ce n'est pas miraculeux, mais c'est validé comme étant un élément bénéfique. Et on apporte quelque chose en plus. Ce n'est pas de la kiné, ce n'est pas de la psychothérapie. C'est vraiment quelque chose qui va aller chercher, amener une espèce de sérénité, de calme, d'apaisement. Et c'est vraiment important. Ce n'est pas quelque chose de négligeable. Quand on souffre, quand on s'inquiète de ce pourquoi on a mal au dos, quand on est en traitement, en chimiothérapie, ou quand on a une maladie chronique, eh bien, on apporte quelque chose en plus différent qui permet à la personne de mieux vivre et du coup de moins souffrir et parfois même de guérir encore plus vite.
À Lionel Coudron, il faut en faire combien de yoga par semaine si on veut en tirer des bénéfices ?
Alors, c'est une vraie question importante et on peut y répondre aujourd'hui à travers justement toutes ces études qui ont validé le yoga depuis 10, 15, 20 ans. On sait qu'il faut faire à peu près 3 heures par semaine. Ça veut donc dire à peu près 20 minutes par jour, 20 minutes à une demi-heure par jour. Et ça, c'est la difficulté que l'on rencontre, c'est que effectivement, pour avoir les bénéfices du yoga, il ne faut pas se contenter de lire un livre. Il faut le pratiquer. Et il faut faire un peu de respiration, ouais. Il faut prendre conscience de ce qui se passe en nous, il faut agir sur soi, et ça demande un petit entraînement. Mais 20 minutes, c'est rien. Je veux dire, quand on regarde ce qu'il faut comme temps pour être pianiste, quand on regarde ce qu'il faut comme temps pour faire un bon joueur de tennis ou jouer au foot, je veux dire, il faut passer du temps, quelque activité que ce soit.
Lionel Coulon, ça fait longtemps qu'on n'a pas pendiculé.
C'est vrai.
Ouais, là, ce matin, là, je trouve qu'il y a du mou. Je voudrais un nouvel exercice.
Eh bien, alors.
Si vous êtes en voiture, vous ne fermez pas les yeux.
Alors. Justement. Sauf
si vous êtes arrêté, bien sûr.
Oui. Et là, on va trouver un autre exercice qui vient compléter la pendiculation, qui est beaucoup plus discret, parce que si vous êtes dans le métro, vous êtes en voiture ou dans la rue, c'est plus délicat. Eh bien, c'est tout simplement inspirer profondément, retenir quelques instants le souffle et d'expirer lentement, en imaginant que le souffle se déverse dans tout notre corps et amène une espèce de vague de détente. Voilà, comme une vague. Et on recommence encore une fois, inspire. On retient le souffle, on écarte bien les côtes, on ouvre bien la cage thoracique et on expire lentement.
Si les gens se branchent à l'instant sur Beurre FM, ils vont se demander ce qu'on est en train de faire. On fait des exercices ce matin.
On fait des exercices.
Lionel Coudron nous invite à, tous les jours, faire des pauses dans notre journée. Et pas des longues pauses, mais des pauses pour nous reconnecter à nous-mêmes.
Et c'est là qu'on peut utiliser éventuellement un téléphone portable, parce qu'on peut le mettre sur une alarme qui régulièrement va nous rappeler à l'ordre en nous disant hey, « Attention là, tu es en train de te laisser t'embarquer dans ta vie » et il va jouer le rôle de Philippe Robichon, il va nous amener justement à repenser qu'on est en train de foncer et non plus de prendre conscience et de se poser.
Bon, posons-nous, vous êtes le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, que je lis et qui écrit que la culpabilité consciente est essentielle. Pourquoi est-ce que c'est bon de culpabiliser et surtout de s'en rendre compte qu'on culpabilise?
Mais parce que nous vivons en groupe, parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, nous vivons les uns avec les autres et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que la culpabilité est là pour nous rappeler qu'il y a des choses qui sont mauvaises et on ne peut pas toujours se dire « moi je peux tout faire, il ne faut pas que je culpabilise et si je culpabilise mais je me fais du mal ». Mais non, mais attendez, c'est normal. Quand
alors, culpabiliser, c'est par exemple, ça fait 3 semaines qu'on fait attention à ce qu'on mange et bim, ce week-end, on s'est vengé.
On a craqué
sur le pot de Häagen-Dazs.
Culpabiliser par rapport à ce qui est mauvais pour nous comme ce qui est mauvais pour les autres. Parce que je pars du principe que dans cette démarche, ça doit être bon pour nous, mais en intégrant les autres.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on en fait de cette culpabilité? Dites-nous comment on fonctionne.
Alors, cette culpabilité, elle est normale. C'est un signal. En fait, c'est un signal qui nous indique qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne correspond pas à notre éthique et à ce que l'on voudrait. Eh bien, il faut observer. Et à ce moment-là, se dire, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette donne? Mais la culpabilité en elle-même, c'est un signal normal qui m'informe qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Donc, je vais la vivre pleinement, cette culpabilité, et je vais aller voir qu'est-ce que je peux changer. Est-ce que je peux changer quelque chose? Alors, à ce moment-là, cette culpabilité a servi pour changer la chose. Est-ce que, effectivement, je n'arrive pas à changer les choses, la culpabilité est toujours là? Eh bien, écoutez, elle est peut-être encore nécessaire pour me dire qu'il va falloir que je change un jour ou l'autre, mais peut-être qu'il y a des choses qu'il ne faut pas changer. Et là, c'est encore un autre volet, qui est celui de l'acceptation, de se dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, et il va falloir faire avec.
Plus on en a, plus on en veut. Donc, ça ne sert à rien d'acheter, puisque de toute façon, ça ne nous calmera pas.
Ça, c'est tout à fait vrai. Mais c'est une maladie humaine. Plus on en a, plus on en veut. C'est ce que me disait déjà ma mère en disant...
C'est la base, hein.
Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas qu'on se perde dedans. Ce n'est pas le fait de vouloir les choses qui est péjorative et qui est négative. C'est le fait d'être malheureux si on ne peut pas les avoir.
Est-ce que vous dites que finalement, plus on a et plus on vit dans un monde où il y a, en tout cas, il y a le choix,
oui.
Vous dites que cette profusion crée une intolérance à la frustration. Et
ah,
que,
oui. Ah oui, mais ça, c'est une catastrophe, ça. C'est ça le mal de notre époque. C'est ça qui fait que les gamins deviennent des enfants rois et des enfants tyrans. C'est ça qui fait que, brutalement, ils ne sont pas satisfaits alors que, justement, ils ont le plus beau paysage devant eux. On a perdu cette capacité, justement, à apprécier ce que l'on a. Et dès qu'il nous manque quelque chose, on en devient malheureux. On ne sait plus gérer nos frustrations. Et ça, c'est essentiel pour être heureux. Il faut savoir gérer le manque. Il faut savoir gérer la souffrance, il faut savoir gérer les difficultés. Mmh. Et à partir de cela, justement, on peut retrouver cette sérénité qui nous permet d'être heureux.
Vous constatez en consultation que les gens ont des pathologies qui sont liées à ça, à cette incapacité à pouvoir gérer leur frustration.
Bien sûr.
Et leur manque de ce qui est essentiel, finalement.
Bien sûr, on le constate, ça donne des gens qui effectivement sont malheureux, qui sont aigris, qui sont dans des revendications permanentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas en avoir, hein. Je veux dire, la révolte, elle est bonne, elle est saine, quand elle est justifiée, quand il y a des injustices, c'est indispensable. Mais on ne peut pas vivre en permanence dans ce sentiment de manque et de frustration. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, je le répète, qu'on ne puisse pas désirer des choses. Mais ne pas être malheureux parce qu'on ne peut pas les avoir. Ça, c'est vraiment le mal qui génère, comme je vous le disais tout à l'heure, cette éducation péjorative qu'on peut voir et ces enfants qui s'excitent, qui s'agitent et qui sont en permanence insatisfaits, alors qu'ils ont tout. Ils ont tout à leur table.
Alors, la profusion, c'est la profusion de thérapeutes aujourd'hui. Toutes les semaines, on a une nouvelle thérapie. Les gens sont un peu perdus d'ailleurs, hein, aujourd'hui avec tellement avec le nombre de thérapies qui arrivent. Votre femme a un mot, c'est le yatou. Il y a une boîte,
oui,
à yatou.
Oui.
Et elle a une théorie qui est pas mal, c'est prendre le meilleur de tout.
Ouais, bah oui, parce que en fait, ça veut dire quoi? S'il y a plein de formes de thérapie, ça veut dire qu'il n'y en a pas une en soi qui détient la vérité.
Ouais.
Ça veut dire qu'une parcelle de vérité est contenue dans chacune des formes et que ces formes s'adaptent en fonction des situations, des lieux, des endroits, des personnes. Donc, il n'y a pas nécessité de suivre de façon dogmatique une école, mais vous avez dans chaque forme des fondamentaux, des basiques qu'on peut reprendre et qu'on peut utiliser en fonction de la personne et de ses besoins.
Mmh. Oui. Donc, en fait, il n'y a qu'à piocher sur ce qui nous arrange.
Alors, c'est pas que ce qui nous arrange,
enfin,
c'est ce qui va être adapté,
oui,
ou ce qui va être efficace.
Ou qui fonctionne.
Ouais, ouais. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui peut nous arranger aussi de temps en temps, pourquoi pas.
Hein. les gens ont tendance à un peu s'arranger avec,
voilà,
avec beaucoup de choses.
Voilà,
et à remettre énormément au lendemain tout ce qu'ils pourraient faire parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'ils n'ont pas la motivation, parce que ce n'est pas la saison pour plein de choses.
Bien sûr. Et en tout cas, on ne peut pas reprocher ça au fait de pendiculer et de respirer profondément.
Ah oui, parce que ça, c'est fou ce qu'on ferait si on avait du temps.
Mais on l'a, le temps.
Et de l'argent.
Mais pour l'essentiel, on n'a pas besoin d'argent. Je sais que ça paraît peut-être... Alors,
je
c'est pas vrai.
Non,
c'est pas vrai.
C'est parce que les gens avancent beaucoup ça.
Oui.
Je le fais pas parce que j'ai pas le temps. Ça, on l'entend tout le temps.
Non, ça, en revanche, c'est faux. Ça, on a tous cet ingrédient temps. Les journées durent 24 heures. Et on a tous cette possibilité qu'on soit... qu'on travaille de façon importante ou pas, on a la possibilité à chaque instant de faire une pause, de prendre conscience, de faire un recul, de respirer. Regardez le temps que l'on passe sur justement ces écrans. Je veux dire, toutes les statistiques montrent que c'est plusieurs heures par jour en moyenne. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas dégager un quart d'heure par jour. C'est pas possible. La réalité, c'est l'inverse. C'est qu'on a tous la possibilité de prendre un peu de temps pour l'essentiel. Parce que sinon, bah, vous savez, c'est la peau de chagrin. Demain, ça ira mieux. Et du coup, en remettant les choses au lendemain, on arrive à la fin de sa vie. Et c'est un petit peu dommage de ne pas en avoir profité entre maintenant et puis le jour où on partira. Donc, on dispose de ce temps.
J'ai bien compris. Il vaut mieux pendiculer que procrastiner. Hein.
Absolument.
Bon.
Et on va refaire une pendiculation.
Tout à l'heure. Non, mais commencez pas à nous chercher comme ça. Parce qu'on va pendiculer dans un instant et vous allez ouvrir votre boîte à outils et vous allez partager avec nous des outils qui nous permettent de vivre mieux.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et c'est le docteur Lionel Coudron qui est mon invité ce matin. Je rappelle que vous êtes yoga thérapeute. Alors on rappelle à ceux qui nous écoutent ce que c'est qu'un yoga thérapeute.
C'est quelqu'un qui utilise les outils du yoga pour les mettre à profit à des patients ou des élèves qui sont en souffrance, qui ont des troubles de santé, pour justement mieux les vivre et pourquoi pas même en guérir, s'en libérer.
Vous êtes médecin, hein, médecin du sport, et vous venez parler de votre nouveau livre qui s'appelle « Le vrai nom du bonheur et la sérénité » aux éditions Kiro. Alors on va parler de la sérénité, mais la première marche de la sérénité, nous dites-vous, c'est l'acceptation. L'acceptation de quoi ?
C'est de faire un constat, c'est de pouvoir prendre du recul et d'observer de l'extérieur ce qui nous arrive. Et de se dire, il y a un certain nombre d'éléments, de situations qui sont présentes, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je peux les transformer ou est-ce que je ne peux pas les transformer ? Si je peux les transformer, je vais tout faire pour pouvoir les transformer. Donc par exemple, je veux dire, je vais changer mon alimentation, je vais essayer d'avoir de nouveaux rythmes de vie, je vais faire telle ou telle chose dans ma vie. Je vais les mettre en application et de ne pas justement être en train de me lamenter sur mon sort. Et puis si je ne peux pas les changer, il y a effectivement cette part d'acceptation qui est cette première marche pour acquérir de la sérénité, qui est de se dire « je fais avec ». Oui, je viens d'avoir un accident et oui, effectivement, j'ai perdu l'usage de mes deux jambes. Est-ce que je vais passer ma vie à être malheureux ou est-ce que je peux faire quelque chose ? Et on a plein d'exemples de personnes qui sont atteintes d'un handicap ou d'une difficulté et qui se disent « mais ça m'empêche pas d'être heureux, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas d'être moi-même ». Je pense à une patiente, vraiment profondément, qui est autiste. Pas un autisme de télévision qui a des pouvoirs miraculeux, qui peut faire plein de choses. Une patiente qui souffre vraiment dans sa vie, qui a des handicaps, qui ne peut pas conduire, qui est limitée dans sa vie et qui en souffre. Mais le jour où je lui dis « écoutez, vous avez le droit, vous êtes autiste, mais vous avez le droit d'être heureuse pour autant », mais ça a changé sa vie. C'était une petite phrase anodine a priori, mais elle s'est dit « mais oui, je suis autiste, mais j'ai le droit d'être heureuse ». Du coup, elle a accepté l'idée d'être autiste parce que c'était plus associé uniquement à un handicap, une difficulté. C'est ça l'acceptation, c'est se dire « j'ai quelque chose qui ne va pas, mais je vais faire avec ». J'ai une limitation, j'ai un handicap, mais je vais faire avec. Oui, là, en ce moment, j'ai une maladie chronique, je dois me soigner. Qu'est-ce que je fais ? Je suis en colère, j'ai peur, je suis triste, je suis découragé, j'abandonne ou je me dis, ben non, j'ai ce trouble, mais je vais le prendre en compte et je vais faire ce qu'il faut pour être bien avec. C'est ça l'acceptation. Mmh. Et ça peut se décliner à travers la santé.
Et faire avec, parce que finalement, on se rend compte que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de vouloir changer les gens, c'est de les accepter comme ils sont. On les changera pas.
Alors, ça va
pour soi. Ça, c'est une utopie, ni le monde, on le changera pas.
Exactement. C'est valable pour soi, l'acceptation, mais c'est aussi valable pour ceux qui nous entourent. J'accepte que mon enfant ne soit pas exactement ce que j'aimerais qu'il soit. J'accepte que mon collègue de travail ne soit pas non plus la personne que je voudrais. Elle est ce qu'elle est. Et je vais l'accepter dans ce qu'elle est.
C'est comme ça, faut faire avec.
Exactement. C'est vraiment ça, l'acceptation.
Deuxième étape, vous dites qu'il faut apprendre à se responsabiliser par rapport à soi-même. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, ça veut dire qu'on a une part de responsabilité dans ce qu'on est et que l'on peut faire beaucoup plus qu'on imagine. À partir du moment où on accepte ce qu'il est et que l'on dit on va faire avec, on peut changer des choses. Et c'est ça. Si je dis c'est de la faute aux autres, c'est de la faute à un tel ou un tel si je suis malheureux, quel est mon pouvoir alors sur moi-même ? Qu'est-ce que je peux changer ? Je ne peux pas nécessairement changer l'autre. Je ne peux pas modifier.
Ça nous rassure.
Alors oui, ça c'est effectivement
c'est pas de ma faute. L'efficacité. En tout cas, on en revient à la déculpabilisation.
Exactement, ça va me rassurer, mais très temporairement, parce que les choses ne vont pas changer. Si je me dis, moi je suis l'acteur principal de ma vie, et je peux peut-être changer quelque chose, à ce moment-là, je me redonne le pouvoir, et je peux agir sur moi, et je ne suis plus passif, mais je suis actif. Je ne suis plus en train de subir, mais j'ai accepté, et je sais que je peux transformer quelque chose. Et à ce moment-là, c'est cette dimension de ma maîtrise, de mon activité, de ma capacité d'agir, qui me redonne ce sentiment de confiance en moi, et qui me fait être mieux.
Donc ça, c'est très important.
Oui, parce que encore une fois, je reprends le pouvoir sur ma vie, je me réinvestis de mes compétences, de mes capacités, de mes qualités, et je ne vais pas me remettre aux autres. Je ne vais pas dire c'est la médecine qui va pouvoir faire quelque chose. Non, moi, je peux faire des choses pour moi-même.
Ça commence par moi. Lionel Coudron, vous avez pu observer de votre pratique que les gens souhaitaient se sentir sereins.
Plutôt qu'heureux. Oui, parce que ça va de pair. La sérénité,
Qu'est-ce que c'est, alors, finalement ?
Avoir moins d'angoisse. Je vais le définir de façon négative. C'est être moins angoissé, c'est être moins inquiet, c'est être moins soucieux, c'est être moins préoccupé. Et c'est donc être apaisé, c'est être plus calme dans son corps. C'est dans son corps le ressentir physiquement par un sentiment de fluidité. L'inverse, c'est, encore une fois, c'est le front crispé, c'est les mâchoires serrées, c'est la gorge nouée, c'est l'oppression thoracique, c'est le mal au ventre. C'est tout ça qui fait que je ne me sens pas serein. Être serein, c'est ressentir dans son corps une fluidité. Être serein, c'est du coup avoir accès à une espèce de sensation de joie profonde. Mais tout ceci en conscience. Tout ceci en prenant conscience et en profitant. Et c'est ça qui permet d'atteindre cette petite marche vers le bonheur.
La sérénité, c'est l'absence de mal-être, en gros.
L'absence de mal-être, et du coup, ça libère une sensation positive de joie profonde, tout en étant conscient. Donc, il y a deux éléments qui sont extrêmement importants aussi, comme deux ingrédients complémentaires, qui sont une joie qui vient se libérer au profond de nous-mêmes, un sentiment de plénitude, et en même temps, c'est en conscience.
Vous nous proposez d'observer nos pensées. Comment est-ce que ça naît, une pensée ? La plupart des gens sont incapables de savoir comment naissent leurs pensées.
Oui, c'est ça qui est génial. C'est extraordinaire. Je me souviens, moi, la première fois où j'ai réalisé ce que c'était qu'une pensée, ça m'a ému. Parce que c'est simple, je veux dire, on pense en permanence. Mais c'est automatique. On ne se rend pas compte à quel point nos pensées sont automatiques. Ce n'est pas quelque chose nécessairement de conscient. Mais une pensée, c'est quoi ? C'est un discours intérieur. Je me parle. Mais ça peut être aussi sous forme d'image. Je vois des choses. Mais ça, je peux en prendre conscience. Je peux me dire, mais tiens, j'étais en train de dérouler dans ma tête ce discours intérieur où j'avais ces images. Et d'un seul coup, je me rends compte que ces pensées, ben, je ne les maîtrise pas toujours. Et il y a plein de pensées auxquelles je m'identifie, malheureusement, parce qu'il y a plein de pensées qui sont des pensées qu'on appelle irrationnelles, qui sont fausses, qui ne correspondent pas à une réalité. Je me fais une idée fausse de mon environnement. Je me fais une idée fausse de moi-même. Mais j'y crois, parce que je le pense. Ben non. Alors ça, c'est la première démarche. J'observe ce qui se passe dans mon corps. Je peux savoir ce qui se noue dans mon corps. Mais je peux aussi savoir si ces pensées, je suis d'accord avec elles ou pas. Si j'y adhère ou pas. Et à ce moment-là, je me dis, mais peut-être que ces pensées, il y en a un certain nombre qui sont fausses. Par exemple, si je me dis, ben, je suis pas capable, j'ai peur, je m'angoisse de présenter tel ou tel sujet en conférence ou devant une assemblée. Ben non, ça c'est une pensée qui est irrationnelle, qui est fausse. Pourquoi je ne serais pas capable, alors que j'en ai les compétences, de parler en public ? Pourquoi je ne serais pas capable de chanter devant un groupe d'amis ? C'est ces pensées-là dont il faut que je prenne conscience pour me dire, mais ça, elles correspondent à des croyances fausses ou pas fausses.
Alors là où vous avez un peu fumé la moquette, c'est que vous demandez qu'on se parle à la troisième personne.
Alors, c'est justement ce qu'on pourrait se dire, que l'on a fumé la moquette.
Là, Lionel Coudron.
Si, effectivement, devant vous, je me dis, Lionel pense que ça serait un petit peu embêtant.
Je comprends bien.
Et pourtant, ça a été l'objet d'études qui ont montré que lorsque l'on peut se parler à la troisième personne, eh bien, on va prendre du recul par rapport à soi. Et c'est ça tout ce qu'on demande.
Mais alors, comment on l'utilise, cet outil? Parce que les gens vont se demander ce qu'on est en train de raconter, là.
Oui, eh bien, quand vous avez une angoisse, par exemple, vous pouvez vous appeler par votre prénom et vous dire, ben voilà, Lionel, là, il est en train de s'inquiéter pour un sujet qui ne le mérite pas. Et voyez, vous allez prendre du recul par rapport à votre action. Vous allez vous voir de l'extérieur. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de vous décentrer par rapport à vous. Si je me parle toujours à la première personne de singulier, je suis angoissé, je colle à moi-même. Si je me dis, tiens, Lionel est en train de s'angoisser, je me décolle de moi-même, je prends du recul par rapport à moi-même. Et déjà, j'ai fait ce travail de modification de mon état. Je m'en décolle. Et c'est là où il y a un
c'est
élément...
Donc là, c'est le recul que vous demandez de prendre, d'être observateur de soi-même.
Observateur de soi-même. Et quand je m'observe, je ne suis plus déjà dans l'action, je peux le nez collé à la vitre, je peux regarder plus loin ce qui se passe et du coup transformer ce qui se passe.
Bon, Lionel Coudron, ça fait longtemps qu'on n'a pas pendiculé.
Oui.
Un dernier pour la route.
Alors, les animaux, pour information, pendiculent une vingtaine de fois par jour.
Oui, bah, nous, on est à deux fois.
On va dire, tous les trois quarts d'heure. Là, ouais. C'est bon. Pendicule, allez, vous inspirez tous avec moi, si vous voulez bien. Allez, je vous invite à le faire dans le studio. Étirez les bras.
Moi, je trouve qu'il y a du mou là-bas, au niveau de la pendiculation.
Allez, on étire de façon à ne pas se faire mal non plus aux épaules. Hein, on adapte en fonction des besoins. Et on expire en bâillant. Et ouvrez bien grand la bouche. Et vous roulez les épaules. Voilà, il faut bien ouvrir la bouche. Hein. Bon, je sais que j'ai de l'entraînement, hein, mais...
Alors, vous êtes très, mais... très souple.
Ouais, j'ai de l'entraînement pour bailler.
40 ans de yoga, je peux vous dire que vous faites le lotus. Hein.
Bah, plusieurs fois par jour, parce qu'avec mes patients, je leur montre comment il faut faire. Donc, effectivement, mais ça s'apprend. Vraiment, ça s'apprend à retrouver, à renouer avec des sensations de base fondamentales, très agréables. Donc, c'est facile.
Bon, vous donnez des techniques dans votre livre, Lionel Coudron, pour pouvoir agir sur ses pensées. Donc, on parlait de la posture, mais on peut agir également de la même façon sur ses pensées. Qui est Fakyab Rinpoche? J'espère que j'ai...
Fakyab Rinpoche, oui. Okay. Fakyab Rinpoche. C'est un Tibétain. C'est une histoire carrément incroyable de notre époque, qui était lama dans un monastère au Tibet, qui a été torturé par... par la dictature en place, qui s'est enfui, qui a traversé l'Himalaya et qui a été, qui a souffert d'une gangrène, d'un pied qui commençait à se gangréner. Et à l'hôpital, lorsqu'il était hospitalisé à New York, on lui a dit que la seule solution après 6 mois de traitement, c'était l'amputation. Et il a refusé cette amputation et effectivement, il s'est mis à méditer. Alors là, je voudrais évidemment bien dire à chacun que c'est pas à la portée de tout un chacun. Lui, c'est une personne qui s'est entraînée pendant des années. Il a médité 20 heures par jour, donc vous imaginez, c'est en permanence. Mais grâce à cette méditation, progressivement, à l'hôpital, on a constaté que sans ces traitements antibiotiques, il a guéri de sa gangrène, et aujourd'hui, il remarche quasi normalement, sans souffrance. Donc, cet exemple-là montre qu'on a un cerveau qui a une capacité incroyable si on l'éduque, si on le développe, si on met à profit ses possibilités. Mais encore une fois, là, on a un champion du monde, entre guillemets. Si vous voulez, il ne viendrait pas à l'idée de chacun de se dire, maintenant, en faisant un peu de foot, je vais décrocher, je vais être champion du monde. Ça demande des heures et des heures et des mois et des années d'entraînement. Mais ça montre que c'est possible. Ouais. Ça montre que enfin, nous, on peut aller dans ce sens.
Il y a des choses qui arrivent dont on ne peut pas trop parler parce qu'effectivement, la médecine est prudente. Hein, mais moi, je sais qu'il y a des cancérologues qui, en cancérologie, constatent des choses qui arrivent parfois qui sont incroyables.
Oui. Oui.
Incroyable.
Oui, personnellement, moi j'ai constaté.
Le pouvoir du cerveau, c'est puissant.
Oui, alors, bien sûr. Mais ça, ce qui est important de dire, c'est qu'on a tous une parcelle de ça en nous. On a tous cette possibilité. Alors, qui peut se passer à notre insu négativement? Et c'est justement l'objet de la yoga-thérapie que de nous aider à les repérer pour retirer ces obstacles, pour libérer nos possibilités. Mais on a, malheureusement, notre cerveau a des possibilités de nous rendre malade, de nous créer et d'aggraver nos maladies, c'est une réalité, il faut le savoir. Mais il a aussi la possibilité de nous rendre justement plus de sérénité, plus d'apaisement et de faciliter la guérison.
Et pour vous, Lionel Coudron, la maladie, c'est pas une épreuve initiatique. Vous refusez de voir ça, voyez, en disant finalement c'est ma maladie qui m'a permis de voir la vie différemment, de m'en sortir. Vous refusez ça.
Alors je refuse de dire que c'est un passage obligatoire.
Vous dites que c'est fou, oui.
Je dis que quand on est malade, que ça peut être une occasion de faire le point pour nous dire il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux. Mais je refuse de dire qu'on a obligatoirement besoin d'une maladie pour avoir une espèce de message initiatique qui nous obligerait à changer.
Voilà, à changer notre vie.
Dès maintenant, même si on n'est pas malade, aller mieux, sans pour autant culpabiliser.
Le vrai nom du bonheur, c'est la sérénité. C'est le livre de Lionel Coudron, notre invité ce matin aux éditions Kero. Merci d'avoir été avec nous, Lionel Coudron. À bientôt.
Merci. Merci beaucoup.
Retrouvez À Votre Santé tous les samedis de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.